on va parler de la consultation sur le racisme systémique. En fait, je devrais dire plutôt que maintenant, elle s'appelle le Forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination. En fait, à la mi-octobre, le ministre de l'Immigration, David Durtel, je m'excuse parce qu'avant de rentrer au poste à l'immigration, il était à l'environnement. Je suis trop habituée avec son ancien poste. En fait, il était à l'environnement jusqu'à temps qu'on ait le dernier remaniement ministériel qui a fait que notre députée de Verdun, Isabelle Melançon, est maintenant rendue à l'environnement et de la lutte au changement climatique. Mais avant, c'était David Durtel qui maintenant est rendu au ministère de l'Immigration, de la diversité et de l'inclusion. Et face aux critiques qu'on voyait par rapport à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, il y avait des histoires de... ou que la directrice serait accusée par certains de ses anciens collègues de harcèlement psychologique. Donc, face à toutes les critiques, on a décidé un peu de faire un rebranding là, sur la commission sur le racisme systémique et en fait, sur la discrimination systémique et le racisme au Québec. Et on sentait que c'était un nom qui faisait assez peur à beaucoup de gens. On disait, la première réaction que beaucoup de personnes finissaient par avoir, ils disaient « mais moi, je suis pas raciste ». Moi, j'en ai un ami noir. Je suis pas raciste. Mais en fait, le racisme systémique, on parle pas de racisme d'une personne à personne. On dit pas d'aller taper sur votre voisin parce qu'il est pas de la même couleur de peau que vous. Là, c'est vraiment pas ça le principe. Le principe plutôt du racisme systémique, c'est que même si entre individus, on se traite de façon toute égale, en fait, c'est que les institutions peuvent en favoriser certains plus que d'autres. Donc, on pourrait voir, par exemple, qu'il y a des situations qu'on pourrait juger comme étant objectives, mais qui défavorisent une classe de citoyens plutôt qu'une autre parce que finalement les moyens qu'on emploie sont moins adaptés pour eux. On parle entre autres de ça, mais on parle aussi dans plusieurs industries d'une sous-représentation de la diversité. Donc on va en parler dans les entrevues qui vont suivre, mais tu sais, on parle par exemple au dernier gala des Oscars, on parlait beaucoup de la... En fait, dans les dernières années, on parle beaucoup de la sous-représentation des acteurs de couleur ou des réalisateurs de couleur. En fait, on se rend compte que c'est pas mal blanc, les Oscars. Il y avait le hashtag et le mot-clic « Oscar so white ». Et ça, en fait, qu'est-ce que ça venait de dire? C'est que malgré le fait que l'industrie est diversifiée, malgré le fait que la population est diversifiée, mais dans les instances de reconnaissance, de prix, ben finalement, c'est toujours les mêmes personnes qui gagnent. C'est très homogène. Et ça, c'est des discours et c'est des enjeux qu'on va discuter beaucoup pendant le forum, en fait. Et au cours du forum, le ministère de l'Immigration, de la diversité et de l'inclusion, qu'on appelle aussi communément le MIDI, à cause de ses initiales dans le milieu. Donc, parfois, vous allez entendre certains intervenants qui vont l'appeler le MIDI directement, mais on fait référence vraiment au ministère de l'Immigration. Il y a 31 organismes qui ont été mandatés pour la consultation, pour aller directement rencontrer les communautés sur le terrain, pour rencontrer sur des enjeux larges ou spécifiques et ramener, dans le fond, les impressions de la plupart des citoyens et citoyennes dans le cadre de mémoire pour la commission. Et la première personne avec qui on va parler, qui est en fait M. Martin Savard du Centre social d'aide aux immigrants, d'où l'abréviation le CSAI, qui a pignon sur rue sur la rue Wellington à Verdun et sur la rue Laurando dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Eh bien, eux, le CSAI, c'est un organisme qui font une consultation publique. La consultation va durer, dans le fond, toute la journée mardi prochain et on a discuté un peu plus avec lui pour avoir les détails. Et après, vous allez entendre Nadia Agi, qui est en fait de Diversité artistique Montréal, qui, eux, ont décidé de ne pas s'inscrire dans le cadre du forum, mais de faire leur propre consultation. Et ils ont continué d'appeler ça sur le racisme systémique, parce qu'ils disaient que, justement, changer de terme pour parler de la valorisation de la diversité, bien, c'est éviter le problème. C'est de dire, on valorise la diversité, mais on reconnaît pas qu'il y a un problème systémique qui défavorise les personnes issues de la diversité, puis qui continuent de faire qu'ils vont être sous-représentés dans le milieu culturel et médiatique. Donc, eux tiennent leur propre consultation et ils vont la tenir, en fait, du début, en fait, depuis la semaine dernière jusqu'au mois d'avril. Donc, il y aura plusieurs événements et dans les deux cas, il y a la possibilité aussi de donner des témoignages en ligne. Et donc, en fond, on s'est entretenu avec les deux par rapport aux futures consultations. Je vous permets d'entendre ça maintenant. Dans la première entrevue, c'est avec Martin Savard du Centre social d'aide aux immigrants et la deuxième avec Nadia Agi, de Diversité artistique Montréal.
Mon nom est Martin Savard, je suis conseiller en emploi et chargé de projet pour le Centre social d'aide aux immigrants.
Pouvez-vous juste me parler un peu de la consultation que vous allez mener mardi prochain?
Le Centre social d'aide aux immigrants a reçu le mandat du ministère de l'Immigration, de la diversité et de l'inclusion de faire une consultation locale qui porte sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination. Il y a plusieurs organismes au Québec qui ont reçu ce mandat-là, dont le CSAI, qui va donc faire une consultation donc en deux volets. Une partie de cette consultation-là est en ligne. Les gens peuvent faire des témoignages en ligne, les personnes qui estiment avoir été victimes de discrimination. Ils peuvent remplir un formulaire qu'on a mis sur notre site Internet. Et aussi, on invite les gens à participer à une journée de réflexion qui va avoir lieu mardi le 28 novembre au Centre Saint-Pierre, où il va y avoir d'abord un panel pendant lequel on va discuter de certains thèmes liés à la discrimination. Il va y avoir des ateliers pendant lesquels les gens vont pouvoir partager des témoignages, et ça, ça va nous permettre de mieux connaître les divers visages que peut prendre la discrimination à Montréal. Également, on va avoir des ateliers qui vont porter sur les pistes de solutions, parce qu'un des intérêts de la démarche qu'on propose, c'est de trouver collectivement des solutions pour lutter contre la discrimination.
La commission elle a changé de nom maintenant, mais pour les gens qui ne sont pas familiers avec le concept de racisme systémique, je me demandais si vous pourriez juste le vulgariser en quelques phrases pour qu'on comprenne un peu plus le concept.
Effectivement, notre consultation, ainsi que celle du gouvernement, ne s'intéressera pas au racisme qu'on peut croiser dans la rue entre deux individus, mais surtout à la discrimination systémique. Rapidement, ça découle de politiques, de pratiques ou même de comportements sociaux ou administratifs qui perpétuent une situation qui désavantage certains groupes de la société. C'est une forme de discrimination qui peut être involontaire, parfois même inconsciente. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, lorsqu'une personne est à la recherche de logement, on va lui demander d'avoir une histoire de crédit. Pour des réfugiés qui arrivent ici, c'est sûr qu'ils n'ont pas une histoire de crédit. Donc, c'est un obstacle supplémentaire à la recherche d'un logement. On comprend les propriétaires d'exiger ça parce qu'ils souhaitent que leur loyer soit payé, mais pour les réfugiés, ça peut être un obstacle majeur. Donc, c'est un exemple où quand un employeur exige une expérience canadienne à des nouveaux arrivants, ou également lorsque, pour certaines démarches administratives, on exige certains types de documents, ça peut poser des problèmes pour des gens qui arrivent d'un pays en guerre où les documents sont absolument inaccessibles. Donc, ce sont quelques exemples. Là, je prétends surtout pas être exhaustif de discrimination systémique.
Mais merci de m'avoir donné des exemples. C'est exactement ce que j'allais vous demander à la suite, parce que souvent, on parle de concepts, on a de la difficulté à mettre un exemple concret, vu qu'il y a beaucoup de gens, en fait, la majorité de la population au Québec reste non victime de discrimination. On ne se rend pas toujours compte de la façon de laquelle ça se perpétue, parce que c'est plus invisible à l'œil inexpérimenté.
Tout à fait.
À ce moment-là, je me demanderais qu'est-ce qu'on peut faire. On parle de pistes de solutions des fois qui sont dirigées vers le gouvernement. Et en tant que citoyen, comment est-ce qu'on peut aider à pousser ces dossiers-là, puis comment on peut aider à essayer de réduire la discrimination dans notre quotidien?
Quand on parle de discrimination systémique, bon, c'est sûr que le forum, un des objectifs, c'est de trouver des solutions. Mais si on reprend quelques-uns des exemples que je viens de mentionner, des solutions qui pourraient être possibles. Lorsqu'un organisme gouvernemental, par exemple, exige certains types de documents, c'est toujours mettre en place une approche alternative pour des gens qui ne peuvent pas présenter ces documents-là. D'ailleurs, récemment, les autres professionnels, on leur a demandé d'adopter cette pratique-là. Pour les personnes qui ne peuvent pas présenter certains types de documents, ils doivent mettre en place des démarches alternatives. Donc, on pourrait demander ça à d'autres organismes. On pourrait également demander ça à d'autres organismes pour ce type de problème-là. Il pourrait y avoir la même chose pour l'histoire de crédit pour un logement, ou que les employeurs cessent d'exiger une expérience canadienne. Donc, c'est toujours une sorte de petite solution. Mais si vous me demandez qu'est-ce que chaque citoyen peut faire, il peut se questionner sur certains de ses comportements sociaux, sa façon de réseauter. Parce qu'une autre difficulté pour les personnes immigrantes qui cherchent un emploi, c'est l'absence de réseau. Est-ce que notre façon de réseauter, on exclut certaines personnes de nos réseaux qui pourraient, s'ils étaient partis de ce réseau-là, avoir un emploi? C'est le genre de question qu'on peut se poser.
Vous me parlez, ça me fait réfléchir. Donc, des fois, je suis pas en train de réfléchir à ma prochaine question. Je suis justement absorbée parce que, justement, moi, dans le cadre de mon travail, je fais aussi des capsules éducatives qu'on traduit dans plusieurs langues, justement avec des traducteurs ou quoi, avec des gens qui sont en processus de francisation. Ça résonne beaucoup parce que dans les derniers temps, je me suis rendu compte que, malgré moi, je me rends compte que nos réseaux sont très homogènes. En tout cas, pour certaines personnes, je voudrais pas le dire pour tout le monde, mais en tout cas, je me suis rendu compte que mon réseau était très homogène et je me demandais moi-même comment je pouvais le faire pour que mon réseau soit moins homogène et que je sois plus confrontée à des réalités qui sont loin de la mienne, aider à être plus conscientisée dans mon quotidien, mais aussi dans le quotidien de mes proches.
Si tout le monde se posait la même question, on avancerait beaucoup.
Pour les gens qui étaient intéressés à venir mardi, on parle du Centre Saint-Pierre. Vous m'avez parlé de la journée. Est-ce que à quelle heure ça commence, en fait?
La journée commence à 9h. On commence à accueillir les participants vers 8h30. Mais pour avoir toute l'information, je vous suggère d'aller sur notre site internet, centrecsai.org, et là vous pourrez vous inscrire en ligne et vous pourrez également, si vous souhaitez, partager un témoignage d'une expérience de discrimination. Évidemment, ça reste confidentiel. Et ça aussi, ça va beaucoup nous aider parce qu'avec les résultats de cette consultation et de la journée de réflexion, nous allons produire un rapport qu'on va présenter au gouvernement, bien sûr, mais qu'on va également diffuser. Et on espère que c'est pour nous seulement une première étape avant d'aller plus loin pour proposer des solutions à la discrimination.
Et d'ailleurs, vous êtes impliqué dans le domaine depuis longtemps. Je veux dire, le centre est impliqué dans la question depuis sa fondation. Vous qui avez d'ailleurs pignon sur rue à Verdun et dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Moi, on m'a parlé que le CSAI donnait beaucoup d'aide justement directement avec les populations touchées. Vous avez mis en place aussi des projets par rapport à plusieurs vagues de réfugiés qui sont arrivés au Canada. Ça inclut aussi des cours de français.
On offre également des services en employabilité et des ateliers ou des rencontres individuelles. C'est ça. Beaucoup de services qui sont offerts à la clientèle immigrante.
Pour la consultation de mardi prochain, est-ce que, par curiosité, est-ce qu'il faut nécessairement avoir vécu de la discrimination? Est-ce qu'il faut être issu de minorité ou est-ce que tout le monde peut venir? Ou est-ce qu'on considère ça plus aussi comme ce qu'on appelle un safe space pour être capable de parler librement sans avoir peur de l'environnement dans lequel on se trouve?
Non, on ouvre la journée de réflexion à tous ceux qui sont intéressés par la question, que ce soit des personnes victimes de discrimination, des intervenants, des universitaires, des chercheurs, des étudiants. Alors, tous sont bienvenus. Les gens qui le souhaitent peuvent s'inscrire avec un pseudonyme s'ils souhaitent rester anonymes. Et tout ce qui va se dire pendant la journée de consultation également s'engage à garder tous les renseignements personnels confidentiels.
Je suis Nadia Agir, chargée de recherche à Diversité artistique Montréal, DAM.
Vous menez présentement une grande période de consultation à travers la société civile et ailleurs, des milieux artistiques. Ça s'étale sur plusieurs mois. En quoi consiste la consultation sur le racisme systémique dans le milieu culturel et médiatique?
Alors, la consultation sur le racisme systémique se fait par Diversité artistique Montréal de façon indépendante. Il y a eu un appel de la part du gouvernement, du Midi notamment, pour faire une consultation sur le racisme systémique. Ça remonte à cet été. La consultation sur le racisme systémique de DAM va se faire de façon indépendante à celle du gouvernement, qui va continuer avec le forum sur la valorisation de la diversité. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est une consultation sur le racisme systémique dans le milieu médiatique et artistique et culturel, avec des artistes, des travailleurs et travailleuses culturelles, un comité de diversité également, des citoyens qui ne sont pas forcément dans le milieu culturel et médiatique, mais par contre qui seraient intéressés à nous parler de leur expérience dans le milieu et également de leur vision de la représentativité des minorités ethnoculturelles, des personnes racisées de façon générale, mais également avec des étudiants et des étudiantes qui sont dans le milieu. C'est une consultation qui va durer, qui a déjà commencé au mois de novembre, donc il y a une semaine déjà, et qui va se poursuivre jusqu'au mois d'avril. De cette façon, on va faire trois catégories en fait pour recueillir des témoignages. On va avoir des groupes de discussion, ce sont ceux qui sont déjà en cours, qui se font à huis clos. On a également une audition publique présentée devant un comité qui va être là pour écouter les témoignages des personnes, et également des rencontres individuelles où, comme chargée de recherche, je vais aller essayer de trouver les bonnes personnes pour compléter différents témoignages que j'ai déjà eus pour avoir une vue d'ensemble. À la fin de la consultation, il va y avoir une journée présentation du rapport final qui va être dévoilé au grand public pour présenter les résultats de la consultation. Et puis également, on va remettre ce rapport-là à la CDPDG, justement, qui travaille déjà sur la question de la discrimination systémique et le racisme.
Pour les personnes qui sont moins familières avec le concept de discrimination raciale, par exemple, je sais que vous en êtes seulement au tout début des consultations. Pour donner un exemple peut-être à des personnes qui ont moins une idée de comment ça se traduit, comment la discrimination raciale se traduit dans le milieu de la culture? soit dans le milieu des médias, à votre avis?
Oui, alors ça peut prendre différentes formes. Justement, quand on parle de racisme systémique, ce n'est pas toujours un racisme qui va être voyant, qui va être perceptible par la personne qui va le vivre. C'est des fois des témoignages qui vont s'ajouter les uns aux autres, qui vont permettre de déceler de façon concrète qu'il y a une certaine discrimination. Ça peut être, par exemple, au niveau de certains galas où on ne va pas forcément voir des personnes racisées se présenter sur scène parce que peut-être que le jury n'est pas non plus composé de personnes racisées également. Et donc, c'est une roue, au final, qui s'alimente et finalement qui donne lieu à une certaine sous-représentation. Également, au niveau des quelque chose de peut-être plus ordinaire, des fois, on va demander concrètement à des artistes ou à des présentateurs de radio ou à la télévision de changer, par exemple, le nom de famille ou encore l'accent pour que ça soit peut-être plus québécois. Et donc, de cette façon-là, on va invisibiliser la différence. Donc ça, ça fait partie des choses que l'on retrouve dans le milieu médiatique et culturel.
Tout à fait. Et cette homogénéité-là qu'on peut voir dans le milieu culturel et médiatique, on peut la compter probablement à travers les instances publiques, à travers les instances communautaires. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, en tant que citoyen et citoyenne?
Alors, en tant que citoyen et citoyenne, déjà, au niveau de la consultation que nous, on présente, on invite des citoyens qui ne sont pas forcément dans le milieu médiatique ou culturel, mais qui voudraient justement se prononcer sur cette question-là de sous-représentativité, qu'on retrouve aussi bien dans les arts, dans le théâtre, à la télévision, dans les films, dans les séries qu'on nous présente à la télévision, panoplie de présentateurs, par exemple, qu'on va retrouver, ou également de journalistes dans les médias qui vont être davantage blancs que racisés. Donc ça, c'est une façon aussi de participer à la consultation, de le montrer. Ensuite, tant que citoyen, c'est peut-être se donner différents moyens, les différentes ressources qui nous sont disponibles, en écrivant peut-être à des élus ou demander concrètement à différentes instances institutionnelles d'inclure des personnes racisées. Ça peut être aussi de faire partie de certains comités diversité, par exemple, pour justement essayer de s'assurer ou de certaines façons de pouvoir inclure les personnes racisées dans les inventaires.
C'est pas pour rien que par rapport aux consultations sur le racisme systémique, vous vous intéressez particulièrement au milieu de la culture et médiatique, puisque Diversité artistique Montréal, ça fait plusieurs années que l'organisme agit justement pour la promotion et la défense des artistes de la diversité. Je me demandais si vous pourriez juste nous dire c'était quoi globalement la mission de Diversité artistique Montréal et comment, dans le fond, vous agissez à l'année longue.
Oui, alors, donc, Diversité artistique Montréal, c'est un organisme qui promeut la diversité ethnoculturelle dans le milieu artistique. Alors, il y a du programme qui vont permettre aux artistes de la diversité de pouvoir trouver leur place. Donc, on a, par exemple, un programme d'accompagnement d'artistes, également le mentorat artistique, où on a donc des mentors qui sont bien installés dans leur métier d'artiste et qui vont pouvoir accompagner les mentorés, donc les personnes qui vont vouloir trouver leur place dans le milieu. On a également l'édition de la diversité. Il y a ce qu'on appelle la cellule IDEM aussi, qui est une cellule de conseil qui va aider certains organismes, certaines institutions culturelles à diversifier justement, que ce soit au niveau du public ou également au niveau de leurs employés, d'avoir une meilleure représentation de la diversité. Depuis peu, il y a un pôle recherche qui s'ouvre et justement qui a pour mandat principal la consultation qui est en cours actuellement sur le racisme systémique.
Si moi, en tant que citoyenne, je suis intéressée à participer aux consultations, comment je peux faire?
Alors, c'est très facile. Je suis d'aller sur diversitéartistique.org. Alors, on a un onglet dans Activité qui est la consultation sur le racisme. Et sur cette page, vous avez donc le formulaire d'inscription. Alors, il est disponible dans les deux langues, en français et en anglais. Ça prend 5 minutes à remplir. C'est très rapide. Et puis, donc, à partir de là, on vous contacte pour vous dire si vous êtes admissible ou non. Et d'inclure le plus de personnes possible avec une certaine représentativité également. Et puis, voilà.